Alors, on va passer la frontière du Bangladesh et je te passe la parole sur les multinationales indiennes, Giovanni.
Ça marche ?
Oui, je pense que si tu te mets prêt, oui.
Bonjour.
Et merci de cette invitation. La boutade que vient de faire le collègue Xavier Richet sur le patron de Fiat nous montre que la firme multinationale est un grand intégrateur des différences, qui intègre et qui exploite les différences entre les territoires, non seulement en ce qui concerne le coût du travail, bien sûr, mais beaucoup d'autres variables. Je pense que cette boutade a une certaine pertinence quand on compare l'Italie avec la Pologne ou avec la Serbie, certainement pas avec la Chine ou l'Inde ou le Brésil, qui sont d'autres marchés où il y a un facteur distance. Donc, pour revenir à mon thème, l'Inde est le plus pauvre des pays émergents en revenu par tête, mais les entreprises indiennes sont devenues des acteurs majeurs de ce mouvement des IDE, investissement direct à l'étranger, et d'expansion multinationale. Vous pouvez... Okay. Nous pouvons nous poser tout d'abord la question sur les drivers, c'est-à-dire quelles sont les stratégies de fond qui poussent ces entreprises à ne pas se limiter à exporter, mais à les produire à l'étranger, devenir multinationales. Il faut dire qu'il y a eu une première vague dans les années 70, début 80, qui s'orientait à d'autres pays asiatiques, dont c'était des investissements directs sud-sud, qui ont été analysés notamment par l'économiste indien Sanjay Lal, qui a mis l'accent sur ce phénomène. Alors que maintenant, il y a un grand phénomène d'acquisition en Europe et aux États-Unis. 40% du millier d'acquisitions dans le domaine industriel et des services qui ont été opérés par les firmes indiennes dans les dernières 10 années se sont orientés aux États-Unis, ont eu lieu aux États-Unis. Et donc, d'un côté, nous avons la recherche de nouveaux marchés qu'il faut servir sur place, qu'on peut pas bien desservir par l'exportation, et c'est le cas des services évidemment, mais aussi d'activités manufacturières comme le pharmaceutique. Il faut se conformer aux règles locales. Et la deuxième grande motivation, c'est l'accès à des ressources. En anglais, on utilise l'expression de synthèse de asset seeking. On va rechercher ce qu'il n'y a pas dans le pays d'origine. Par exemple, des ressources humaines ou des capacités de design, des centres de R&D, de recherche et développement. Le problème, comme en Chine, le thème intéressant est d'observer le processus d'investissement direct à l'entrée et l'acquisition de technologies qui a permis à ces entreprises d'avoir un développement sur le marché intérieur et de devenir finalement multinationale. Et dans ce cas, évidemment, c'est un processus qui est enraciné dans l'histoire, mais qui s'est accéléré après 1991, quand l'Inde est entrée dans une phase de libéralisation plus avancée. Et donc, il y a eu une accélération de ce flux à l'entrée, et notamment des GV, des joint ventures ou sociétés mixtes, comme forme de coopération entre entreprises indiennes et firmes multinationales, qui a été un véhicule majeur de transfert, acquisition de technologies, adaptation et élaboration antérieure de cette technologie. Et on va voir dans le secteur automobile et dans le temps limité pharmaceutique, quelques exemples de ce processus. Alors, pour l'industrie automobile, nous avons une longue histoire et qui arrive à un point de... s'est enraciné dans les décennies des années 50, 60, 70, qui sont les décennies du protectionnisme. Celui qu'en Inde on appelait le license Raj, c'est-à-dire l'empire de la licence, parce que tout était extrêmement réglementé par l'État. Et donc, la licence de production, dans ce cas, était tout à fait nécessaire. Alors, il y a une certaine tendance à interpréter ce qui s'est passé en Inde ou en Chine d'ailleurs, comme une histoire qui commence avec la libéralisation. Dans le cas de l'Inde, l'histoire ne commence pas, à mon avis, en 1991, mais les décennies de croissance orientées au marché intérieur dans un contexte de protection ont quand même façonné les bases de l'industrie, ont créé des bases technologiques, des bases industrielles. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dès cette période, le rôle des Japonais est tout à fait important, notamment dans l'industrie automobile dont on a parlé. Alors, donc tous ces stades précédents permettent la grande croissance à partir de l'an 2000. Alors, si on vient... Vous pouvez continuer. Un slide sur le cas de Maruti, qui a été créé dans les années 80 sur l'initiative de capital public indien, en association avec un capital multinational japonais, Suzuki. Et donc, c'est une entreprise qui a façonné vraiment le marché et le niveau, a donné les standards, les niveaux technologiques sur le marché indien. Et dans quelques années, a pris le 50% du marché. Donc, encore aujourd'hui, moitié des véhicules automobiles qui circulent en Inde viennent de cette usine, qui a commencé ensuite à exporter, y compris vers l'Europe. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après une vingtaine d'années, au début des années 2000, après la libéralisation, progressivement, les Japonais ont pris le contrôle. Et aujourd'hui, il s'agit d'une filiale étrangère contrôlée d'une manière fortement majoritaire, pas le 100%, mais presque, par une firme multinationale, même devenue ou en train de devenir le premier pôle de production japonais à l'étranger. Et il y a le premier centre de R&D, de recherche et développement industriel japonais à l'étranger. Un autre grand protagoniste de ce marché automobile indien, qui est effectivement devenu un des acteurs majeurs multinationaux, c'est Tata Motors. Alors, Tata Motors, c'est une société qui fait partie d'un grand groupe conglomérat, c'est-à-dire le groupe Tata, familial, qui existe depuis la moitié du 19e siècle, produisait des locomotives et qui progressivement a grandi et s'est diversifié. Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est que cette diversification, cette nature conglomérale qui va de l'électronique au service à l'industrie automobile, à la chimie, etc., a été incitée par la régulation elle-même. C'est-à-dire que les grandes firmes privées indiennes ne pouvaient pas se développer au-delà d'une certaine part de marché dans leur propre secteur, et donc était poussé par le fameux License Raj à se diversifier. Et ce qui s'est passé typiquement dans le cas de Tata, mais aussi d'autres entreprises. Et donc cela crée un mécanisme de synergie à l'intérieur d'un groupe à contrôle privé familial qui a une nature conglomérale. Et là, par rapport aussi au cas chinois où la propriété publique locale ou centrale est très importante et le privé n'est pas si conglomérat, ça fait une différence importante du point de vue de la gouvernance. J'approfondis à travers des interviews, des études de cas. Ici sont présentés deux dans l'industrie pharmaceutique et deux dans l'automobile. Mahindra opère dans le secteur de la métallurgie et c'est une entreprise qui a fait énormément d'opérations aussi à deux filiales en Allemagne, une en Suède. Et Bharat Forge aussi est dans la filière automobile comme producteur de composants. Alors, il s'agit toujours d'entreprises. Alors, Bharat Forge, bien sûr, est le producteur de métallurgie. Mahindra est producteur de véhicules aussi. Alors, il s'agit d'entreprises qui ont une forte propension à exporter, qui ont une croissance très forte. Et donc, cet échantillon de 4 entreprises nous montre qu'ils ont opéré avec des formes différentes qui vont de la joint venture au greenfield, c'est-à-dire création de nouvelles entreprises dans les pays en développement, aux acquisitions dans les pays plus développés. En suivant. Leur avantage technologique n'est pas mesurable d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement de brevets et de pourcentage élevé de R&D sur le chiffre d'affaires, mais plutôt de capacité d'assimiler, d'acquérir, de faire ce qu'en anglais on appelle un effet de leverage, d'acquisition, transformation, assimilation de technologie. Ils ont aussi une grande capacité de différenciation du produit, et ils ont des capacités de management, de gestion qui sont tout à fait remarquables. Et ils ont aussi des ressources financières. Ils ont des ressources financières, ce qui va à l'encontre de l'idée reçue du pays en développement qui n'a pas de capital, qui reçoit le capital, exporte travail ou de produits intensifs en travail. Et dans ce cas, il s'agit d'entreprises qui ont connu une période de croissance sur leur marché intérieur, ils ont fait du cash et donc ils ont de grandes ressources financières qui se déplacent à l'intérieur du groupe là où nécessaire. Alors, quels sont les avantages compétitifs de ces entreprises? Alors, nous avons des avantages qui sont typiques, spécifiques aux entreprises, et d'autres qui viennent du milieu d'origine, c'est-à-dire du pays. Alors, ces entreprises ont eu toute une histoire. Alors, l'histoire compte beaucoup. L'histoire ne commence pas en 1991. Et il y a eu cette longue accumulation de capacités technologiques, de posséder une technologie et la transformer. Et cela arrive jusqu'à développer des innovations originales qui sont entraînées par le marché intérieur, mais qui peuvent être exportées à certains pays. Alors, dernier exemple, le tout petit modèle low cost de Tata, Tata Nano, qui est maintenant en production avec une histoire difficile de démarrage de ce projet. Opposition sociale des paysans, etc., nouvelle localisation du projet, qui est quand même quelque chose d'absolument original d'un point de vue de la conception, d'un point de vue des ingénieurs, et qui est le résultat d'une ingénierie tout à fait indienne. Il y a des capacités d'organisation de management, il y a les ressources financières. Et il y a une force, on vient aux avantages spécifiques des pays. Alors, il y a un coût du travail non qualifié, un coût des ingénieurs, des informaticiens, c'est-à-dire de personnel hautement qualifié, qui est un différentiel de coût qui est remarquable. Il y a la protection gouvernementale pendant les phases de développement du passé, le régime des propriétés intellectuelles qui s'est adapté plus tardivement aux standards OMC. Et donc, par exemple, dans la pharmaceutique, a créé des avantages remarquables. Et finalement, l'habilité à gérer les alliances, les sociétés mixtes et les GV. Alors, en Inde, on observe deux trajectoires parallèles. On fait des acquisitions en Inde de filiales étrangères, on fait le leverage, c'est-à-dire on est capable d'acquérir ce qui nous intéresse au niveau technologique organisationnel. Il y a un effet d'apprentissage qui permet dans les multinationales. Ou bien la première phase est représentée par des alliances. Et il s'agit d'une internationalisation très accélérée, et donc très rapide par rapport aux exemples historiques. Les institutions, la gouvernance, propriété familiale et conglomérale est très important. Les politiques nationales d'éducation et la création on revient à la question tout à l'heure du capital humain est un avantage tout à fait fondamental pour ces firmes indiennes. Et finalement, aussi, les coûts du travail comptent. Alors, étrangement, les économistes ne sont pas tellement penché sur cet aspect, mais nous parlons de multinationales qui sont basées dans des pays à très bas coût du travail. Le cas de l'Inde est le cas extrême. Et donc ça, évidemment, c'est en contradiction avec le paradigme reçu avec Sherolin, parce qu'on s'attendrait des exportations, mais pas que ces firmes-là vont investir à produire à l'étranger. Pourquoi? Vous ne pouvez continuer pas à produire en Inde et exporter. Alors, c'est un sujet de recherche intéressant. Et la question à se poser est si cet avantage est seulement préalable au développement multinational ou s'il continue à être exploité, par exemple, à travers des transferts de biens intermédiaires. Et je vous remercie de votre attention.
Merci Giovanni. Et merci d'avoir mis le doigt sur ce paradoxe qu'on peut être un pays à coût faible de main-d'œuvre et avoir ces multinationales. Alors moi, je vais vous parler d'un cas aussi assez particulier, qui est celui des firmes multinationales russes, en commençant par un premier point sur l'émergence de ces firmes. Xavier Richer le rappelait tout à l'heure, les firmes soviétiques, enfin du temps de l'Union soviétique, n'avaient pas une grande tendance à s'internationaliser. Il y en avait quand même quelques dizaines, mais qui étaient assez curieuses, on les appelait les multinationales rouges, et pratiquement toutes ont sombré et ont disparu dans la crise économique qui a accompagné la transition de la Russie vers l'économie de marché entre 91 et 93. Mais en même temps, il s'est produit, comme vous le savez, la dissolution de l'URSS fin 91, qui instantanément a créé des multinationales, puisqu'il y avait des firmes soviétiques basées en Russie qui étaient en même temps, qui étaient des firmes russes d'une certaine façon, et qui étaient aussi basées au Kazakhstan, en Biélorussie, etc. Et instantanément, quand ces pays sont devenus indépendants, les firmes sont devenues multinationales. On appelle ça parfois des « born multinationals ». Okay, voilà. Mais où étaient-elles situées? Elles étaient situées dans les pays de l'ex-URSS, ce qu'en Russie on appelle l'étranger proche. Donc les multinationales russes commencent dans l'étranger proche. Comme vous le verrez au tableau 1, la véritable expansion des multinationales russes commence à partir de 1994, où l'on observe que des entreprises publiques, mais aussi des entreprises privatisées, et même des entreprises en cours de privatisation, recommencent, si je puis dire, ou commencent à investir à l'étranger, et d'abord dans l'étranger proche, d'abord dans l'ancienne zone soviétique. Et si j'avais le temps, je développerai le point suivant davantage. Elle ressemble encore beaucoup à cette époque à des firmes multinationales de pays en développement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont en général une taille modeste. Elles viennent de commencer à investir à l'étranger. Il y a une très forte interférence de l'État, même lorsqu'elles viennent juste d'être privatisées. Leurs filiales sont situées dans les pays limitrophes, l'étranger proche, ou dans la même région à peu près. Le nombre des pays hôtes de ces filiales est très peu nombreux et le nombre de leurs filiales étrangères est également assez faible. Et ne parlons pas de la qualité de la production, elle est encore un peu soviétique, je ne commente pas. Et la profitabilité des firmes n'est pas magnifique. Donc elle ressemble moins aux grandes multinationales occidentales qu'à des multinationales originaires du tiers-monde. Au tableau 2, vous verrez rapidement qu'à partir de l'année 2000, la croissance des multinationales russes devient extrêmement rapide. J'ai fait les calculs. Dans les années 2000, ce sont ces deux Russies que sort le flux le plus rapide d'IDE, puisqu'ils rattrapent et dépassent le rythme chinois. Vers 2007, ils sont devant la Chine. Donc il y a une croissance très rapide. Entre 2000 et 2008, l'investissement direct étranger russe a été multiplié par 16 en 8 ans. Donc c'est vraiment la plus rapide, et c'est la plus rapide si on compare aussi, la plus rapide expansion si on compare aux autres pays en transition. C'est ce que vous montre le tableau 2, trop rapidement bien sûr, mais dans le cadre de cet exposé, je ne peux pas le détailler. Et au tableau 3, la comparaison avec les autres pays en transition d'Europe centrale et orientale se prolonge par l'étude de deux ratios. Le premier ratio, c'est le ratio entre le stock d'investissement direct étranger sortant de Russie et le produit intérieur brut. de Russie, mais également pour tous les autres pays en transition. Et vous voyez que c'est en Russie que ce ratio devient très élevé. Il est dépassé par l'Estonie, mais qui est un très petit pays. Et puis l'autre ratio que vous pouvez observer sur ce tableau, c'est le ratio entre le stock d'investissement direct étranger entrant et le stock d'investissement étranger sortant. La question de savoir si la Russie pénètre plus les autres pays qu'elle n'est pénétrée par eux. Et qu'est-ce que l'on voit ? En fin de période, on arrive à 95% pour ce ratio. À 100%, ça veut dire que les Russes investissent autant à l'étranger qu'ils ne sont investis par l'étranger. Et quand on arrive à ce stade-là, il y a un modèle théorique dont je fais abstraction par ailleurs, qui est le modèle de Dunning, qui dit « ce pays est devenu un pays mature en tant qu'investisseur à l'étranger ». Il est parvenu à maturité. Donc ça veut dire que les firmes multinationales russes approchent la maturité, c'est-à-dire deviennent des multinationales qui ressemblent un peu aux autres. Alors, le point suivant, c'est qu'il résulte de cette expansion rapide qu'aujourd'hui, bien sûr, des firmes russes détiennent d'importants actifs à l'étranger. Donc au tableau 4, vous pouvez observer quelques-unes de ces firmes, les 10 plus importantes d'après leurs actifs à l'étranger, sont Lukoil, c'est la première firme privée pétrolière, Gazprom, première firme mondiale gazière. Et puis après, il y a Severstal, Evraz, Renova, Basic Element, NLMK, qui sont tous des métallurgistes. Vient Sovcomflot, c'est du transport aérien. Norilsk Nickel, c'est encore la métallurgie. Mais ce qui est intéressant, et cette firme a déjà été mentionnée à cette tribune tout à l'heure, apparaît Vimpelcom. Vimpelcom, c'est de la télécom et de la téléphonie. Donc une firme de ce que je vais appeler un secteur moderne. Tous les autres secteurs, c'est des secteurs qui étaient très développés en Union soviétique. Vimpelcom, pas. Ça n'existait pas. Donc ça, c'est nouveau. Et alors le dernier point par comparaison aux autres pays d'Europe centrale et orientale, c'est que la taille moyenne des filiales étrangères des multinationales russes est évidemment beaucoup plus grande que celle des multinationales hongroises, polonaises, tchèques ou ce que vous voulez. Le point suivant, quelles sont les spécificités géographiques et sectorielles des multinationales russes ? Donc, sur le plan géographique, je vous ai dit, l'orientation de départ, c'était l'étranger proche. Eh bien, maintenant, elles vont vers l'étranger lointain, si je puis m'exprimer ainsi. Si l'on vous montre le tableau 5, vous allez voir dans ce tableau que les premiers pays, par ordre d'importance, dans lesquels les firmes russes investissent, sont ce que je vais appeler des pays fiscalement sympathiques, pour des paradis fiscaux, Chypre, Bermude, Île Vierge, Île Caïman, Gibraltar. Et puis, qu'est-ce que vous avez aussi en tête de liste ? Eh bien, les plus grands pays développés. Pays-Bas, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Suisse, Luxembourg. Alors Luxembourg, c'est peut-être aussi un peu fiscal. Donc, elle privilégie aujourd'hui des paradis fiscaux et les grands pays développés. Et les grands pays développés. Alors on voit aussi dans le tableau 5 qu'il y a bien sûr toujours une présence dans l'étranger proche. Elles sont très présentes en Ukraine, en Biélorussie, en Hongrie, au Kazakhstan. Et puis aussi, phénomène intéressant parce qu'il est nouveau, les firmes russes commencent à investir dans les autres pays émergents. On les voit en Turquie, dans le tableau, on les voit en Inde, ce qui est sans doute le signe d'investissements croisés prochains entre pays émergents. Il y en a d'autres, sans doute, que les Russes qui font cela. Pour la répartition sectorielle, elle est encore assez concentrée sur les industries extractives et sur les industries lourdes du genre métallurgie, cimenterie, etc., qui sont des vieux héritages post-soviétiques. C'est tout à fait normal. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'apparition de multinationales russes dynamiques dans des secteurs comme les télécoms. Alors, il n'y a pas que Vimpelcom, il y a le groupe Alpha. Dans la téléphonie, il y a aussi MTS et Citronix. Dans l'aéronautique, il y a deux belles multinationales russes, Systema et Korolev. Et bien sûr, dans les services. Les banques russes sont multinationales, les assurances russes se multinationalisent, les transports russes deviennent des multinationales également. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, elles ressemblent de moins en moins à des multinationales des pays en développement, si tant est que ce mot a un sens. Le point suivant, quelles sont les stratégies des multinationales russes ? Alors la première chose qui n'est pas vraiment une stratégie, encore que, ce sont des firmes en moyenne assez opaques. Je cite juste un exemple, c'est mon favori. Gazprom, l'une des plus grandes firmes russes multinationales, refuse de transmettre des statistiques à la CNUSED. La CNUSED, c'est l'organisme qui publie chaque année le World Investment Report, c'est-à-dire le rapport sur les IDE dans le monde. Et ils n'arrivent jamais à sortir un chiffre sur Gazprom. Gazprom refuse. Voilà. Alors, ce n'est pas la seule qui refuse. La tendance est que ça s'améliore un petit peu. Hein, ça s'améliore un petit peu, mais il y a cette dimension opacité. Une autre dimension de la stratégie des multinationales russes, surtout au début, dans les années 90, c'était de fuir la transition. Je veux dire, par là, elles investissaient à l'étranger pour fuir la Russie. Parce que le climat d'investissement, comme on dit en Russie, était mauvais. Il y a une forte récession, une forte inflation, un fort taux de chômage, beaucoup de dettes. La fiscalité était assez forte. Pas un pays très sympa. Donc elle partait de chez elle. Et puis la deuxième chose qu'elle faisait, mais c'est très lié à la précédente stratégie, elle faisait ce qu'on appelle en anglais du round-tripping. C'est-à-dire elles investissaient à Chypre pour de Chypre réinvestir en Russie dans des conditions souvent plus opaque encore, si je puis dire. Voilà. Alors ça, c'est un peu les stratégies de départ. Si on se rapproche d'aujourd'hui, elles ont développé des stratégies plus classiques d'investissement dans leur marché d'exportation. On a déjà entendu ça pour les Chinois, pour les Indiens. Donc c'est très classique, du market seeking, comme on dit en anglais. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la dernière stratégie qui apparaît dans le courant des années 2000, et que, pour ma part, je qualifie souvent de stratégie globale, c'est-à-dire elles investissent aujourd'hui à l'étranger pour des motifs différents selon le projet d'investissement considéré. De temps en temps, c'est pour se garantir le contrôle de ressources à l'étranger. De temps en temps, c'est pour le marché. De temps en temps, c'est pour abaisser des coûts de production, car les salaires augmentent en Russie. Et finalement aussi, beaucoup, pour acquérir des actifs intéressants, et notamment des actifs technologiques. Donc si on peut aller au tableau 6, pour cette dernière stratégie, bien sûr, il y a une seule voie. Vous ne pouvez pas acquérir des actifs autrement que par fusion ou acquisition d'entreprises étrangères. Et le tableau 6, que je ne commenterai pas en détail, vous montre qu'entre 2006 et 2008, il y a eu de très nombreuses acquisitions transnationales réalisé par les firmes russes sur des firmes du Canada, de Turquie, d'Italie, de Suisse, etc., aux États-Unis. Et on a entendu parler de l'une des dernières opérations en cours, ce projet d'éventuelle fusion entre Vimpelcom et Orascom Telecom, qui a été déjà mentionné. Le dernier point de mon exposé consistera à replacer les multinationales russes dans le contexte du capitalisme d'État russe, qui est en gros la caractérisation de ce pays en ce moment. Et je commencerai d'abord par m'appuyer sur les travaux de deux économistes finlandais, Liuto et Varta, qui ont utilisé deux critères pour essayer de catégoriser les firmes multinationales russes. Le premier indicateur est un indicateur de transparence de la gouvernance des firmes. Alors, comme je vous ai dit qu'elles étaient un peu opaques, et tout de suite. Et ils ont utilisé comme variable concrète un rating de Standard & Poor's. Et la deuxième variable, ou le deuxième critère qu'ils ont utilisé, c'est le fait que la firme soit la propriété, ou même si elle n'est pas en propriété, qu'elle soit sous le contrôle de l'État ou non. Ils ont dégagé quatre boîtes, quatre catégories, qu'ils ont baptisées pour la première les patriotes non transparents, c'est-à-dire des firmes à fort contrôle d'État, en général contrôlées à 100% par l'État. En général, elles sont dans des industries très stratégiques liées aux ressources naturelles. Le prototype de ce genre de firme, c'est Rosneft. C'est la grande firme pétrolière publique, d'État. Voilà. Elle doit être la deuxième ou troisième en taille, après Lukoil, qui, elle, est privée. La deuxième boîte qu'ont créée ces économistes finlandais, ils l'ont appelée les patriotes transparents. Alors, ce sont des firmes qui dévoilent un peu plus leurs chiffres. Comme ils ont mis Gazprom dedans, vous voyez que c'est pas non plus, c'est pas le délire en matière de transparence quand même. Hein, donc, elles dévoilent un peu leurs comptes et elles sont en propriété d'État partielle, mais néanmoins, elles ont déjà conquis de très bonnes positions sur les marchés mondiaux. C'est évidemment le cas de Gazprom, Alrosa, parmi les métallurgistes, et puis RAOUES, qui est l'EDF russe, hein, la firme produisant de l'électricité. Et puis la troisième boîte, ils ont collé dessus, les indépendants non transparents. Ce sont des firmes qui visiblement ont des problèmes de gouvernance et qui en plus cherchent à les résoudre ou à les aggraver, diront certains, en investissant offshore, en général en utilisant des paradis fiscaux, via des paradis fiscaux. Alors ça, il y en a pas mal qui font ça, parmi les firmes russes, et notamment les métallurgistes Evraz, Severstal, Rusal. Et enfin, la quatrième boîte, les indépendants transparents. Là, ce sont, parmi toutes les firmes multinationales russes, les seules dont je m'avancerai à dire qu'elles sont véritablement des firmes privées. Elles sont indépendantes de l'État, elles sont en propriété privée, elles sont assez peu, enfin beaucoup moins que toutes les autres, influencées par l'État et par le politique. Et dedans, on trouve Vimpelcom, et dedans, on trouve MTS, ça c'est pour la téléphonie, télécom, mais on trouve Lukoil, hein, la grande entreprise privée du pétrole, Norilsk Nickel, un des métallurgistes un peu indépendants. La dernière note que je voudrais faire sur ce point-là, c'est que les années 2000, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Russie, sont des années de renforcement de la présence et du rôle de l'État dans l'économie. Ça a commencé dès le début des années 2000 et ça s'est accentué depuis 2007, c'est-à-dire depuis que les premiers signes de crise touchant la Russie se sont fait sentir, et ça s'est énormément accentué en 2008-2009. Alors quels sont ces indices de recontrôle partiel de l'économie par l'État? Le premier que je mentionnerai, c'est qu'en 2007, à l'initiative de M. Poutine, il a été créé 7 corporations d'État dans des secteurs de pointe comme les nanotechnologies par exemple, qui sont chargés de mener la restructuration industrielle du pays, mais en même temps de s'internationaliser. Et donc, elles sont devenues directement les concurrentes des multinationales russes dont je vous ai parlé jusque-là. Et en plus, elles sont chargées clairement de servir à la fois la politique industrielle et la politique étrangère de la Russie. Elles n'investissent pas n'importe où, bien entendu. L'autre signe que je développerai plus vite, c'est l'affaiblissement des oligarques. On a beaucoup parlé en Russie de l'arrivée des oligarques au pouvoir. Alors il y en a qui ont fini après en prison, comme on souligne souvent pour Khodorkovsky. Bon, ils sont en perte de vitesse, les oligarques. Et surtout avec la crise financière, beaucoup d'entre eux se sont désenrichis, ou j'ose pas dire appauvris, hein. Ils se sont désenrichis et ils ont eu des grosses dettes, des gros déficits. Et quelle a été la solution envisagée en Russie, dans tous les cas? Leur nationalisation. Donc le rôle de l'État augmente aussi par voie de nationalisation, en général partielle, des firmes en difficulté. Et enfin, la dernière chose qui a changé, ce sont les relations entre l'État et les firmes en général, mais ça concerne les multinationales également. Dans les années 90, on a beaucoup développé l'idée qu'en Russie, les firmes, et y compris les multinationales, avaient une attitude prédatrice vis-à-vis de l'État. Tout ce qu'on peut piquer à l'État, c'est bon à prendre. Ça s'appelait, au lieu de le « invisible hand » d'Adam Smith, on appelait ça le « grabbing hand », okay, des années 90. Bon, ça, c'est un peu fini, mais il y a un nouveau modèle de relation entre les firmes, y compris les multinationales et l'État, qu'on pourrait appeler un modèle d'échange ou un modèle d'échange de bons procédés. L'État n'hésite pas à fournir des aides, des subventions ou des exemptions fiscales aux grandes firmes multinationales russes, mais en contrepartie, il attend qu'elles s'engagent à respecter des prix régulés par l'État, qu'elles acceptent des inspections fréquentes de l'administration, qu'elles acceptent de communiquer avec des bureaucrates, ce qui est souvent source de lenteur. Voilà. Conclusion. Juste pour résumer, les spécificités actuelles des multinationales russes sont donc une expansion qui est la plus rapide dans le monde, au moins jusqu'en 2007, dans les années 2000 et jusqu'en 2007. Deuxièmement, une compétitivité qui est le plus souvent basée sur des ressources naturelles disponibles, mais ça évolue, puisque dans quelques secteurs modernes, on a vu des firmes intéressantes. Dans cette expansion internationale, l'État joue presque toujours un rôle, soit direct, soit indirect. Et enfin, une stratégie importante aujourd'hui de ces firmes, c'est l'acquisition de firmes étrangères. Si vous en connaissez, vous pouvez les alerter, les Russes arrivent. Contrairement à ce que disait Xavier sur le péril jaune. C'est l'ex-péril rouge. Voilà, la parole est à la salle. Première question. Oui, je vous en prie, allez-y, madame. Vous pouvez disposer d'un micro maintenant, je crois.
Surtout sur l'avenir de l'Afrique par rapport aux investissements directs des projets chinois. Oui. Que deviennent ces pays? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Est-ce que ce n'est pas uniquement l'intérêt de ces grandes firmes multinationales qui va être satisfait au détriment toujours d'ailleurs des pays africains?
Ben, aujourd'hui, l'Afrique, enfin disons les Chinois. Développe l'idée qu'ils coopèrent avec l'Afrique sur une base amicale parce qu'ils sont contre le colonialisme et tout ça, mais les pratiques qu'ils ont sont typiquement coloniales. Hein. Il y a des pays comme le Nigeria, je ne sais pas, où il y a même eu des accords qui ont été dénoncés en raison de la vigueur, de l'acharnement des Chinois vis-à-vis de l'exploitation des ressources locales et des ouvriers locaux. Hein. Il y a eu des révoltes. Donc, c'est typiquement, bon, c'est les Européens, les Américains n'ont rien fait en Afrique, c'est nous qui arrivons. Quoi. C'est un peu ça. Quoi. Derrière l'idéologie, on vient sans être des impérialistes comme les anciens colons. Hein. Alors, puisque le principal objectif, c'est l'accès aux matières premières. Hein, c'est évident, c'est comment assurer l'accès aux matières premières. Donc, de ce point de vue, bon, ben, rien de nouveau sous le ciel, hein, c'est une vieille pratique.
Merci Xavier. Nous avons le temps pour encore une ou deux questions, s'il y en a. Monsieur, alors, comme je suis un peu myope. Non, n'ayez pas peur. Oui, monsieur, je vous en prie.
Pour voir clair sur ce que vous avez expliqué sur cette multinationale égyptienne, mais aussi télécom en Russie, sur quel matériel travaillez-vous? Est-ce une société commerciale qui vend des prestations, ou bien avez-vous, et en Russie aussi, cette société a-t-elle aussi son réseau de satellites pour couvrir l'étendue que vous désignez sur la planète, et fabriquez-vous les objets qui servent à téléphoner? Enfin, c'est pour se faire une idée, si c'est uniquement du service, et à ce moment-là, sur quel matériel, un rapport de sous-traitance avec un fabricant, ou bien fabriquez-vous vous-même vos matériels?
Alors, Orascom, enfin, et la plupart des opérateurs mobiles, alors justement, on pourrait faire une toute petite aparté sur le modèle des Indiens, qui est un peu différent, qui est intéressant. On est une société de service. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des équipements de réseau, et c'est le modèle qui existe en France également, hein, donc c'est tout à fait classique. On va acheter des équipements de réseau à Alcatel, ou à Siemens, ou à Nokia, ou à Huawei, par exemple, en Chine. Donc, ce sont des antennes qu'on va poser sur les toits. On va poser soit des câbles, soit des faisceaux hertziens pour aller jusqu'à des... jusque simplement les serveurs, entre guillemets, de communication que l'on possède. Donc nous, on va acheter véritablement de l'équipement de télécommunication qu'on va installer et qu'on va opérer. Et ce qu'on vend, c'est du service. Donc c'est véritablement de la minute de communication à la base, hein. Vous achetez le combiné, nous on achète le réseau, on opère le réseau. Il y a un modèle qui est un peu différent, qui a été développé en particulier par les Indiens, qui est un modèle dans lequel l'opérateur de téléphonie n'achète plus son réseau, mais en fait il va contracter à quelqu'un comme par exemple Siemens, il va lui confier la construction et l'exploitation du réseau, et finalement l'opérateur de télécom va lui-même acheter des minutes, je dirais en gros, à l'exploitant du réseau. Donc il va dire de combien il a besoin, sur quelle zone et quelle quantité de trafic il estime avoir besoin. Il va acheter en gros ces minutes-là, je dirais, et les revendre à ses abonnés. Donc ça, c'est un modèle un peu différent où effectivement, là, on ne posséderait plus le réseau et on devient véritablement avant tout un distributeur, donc une exploitation commerciale. Mais nous, je dirais pour des raisons culturelles, je pense qu'Orascom fait partie des sociétés qui a justement une certaine, un certain attachement au fait de posséder ses propres infrastructures. Donc typiquement, c'est nous qui déployons, qui possédons et qui entretenons pour une large part nos équipements, nos réseaux.
Merci. Est-ce que je peux me permettre une deuxième question ?
Elle sera brève et la dernière, parce qu'on nous fait signe qu'il faut... Mais vous pouvez la poser. Vous pouvez la...
Bon. Une bonne partie des capitaux russes vont dans les paradis fiscaux. On sait que dans les paradis fiscaux, ils s'y retrouvent des activités honorables et des activités beaucoup moins honorables. Et on sait qu'en Russie, les mafias, ça a été une activité extrêmement florissante. Alors, qu'est-ce à dire que ces mafias prennent de plus en plus de pouvoir, d'installation, etc., ou qu'elles sont en train d'enfiler le trois pièces, le costume trois pièces col blanc et cravate.
Vous avez donné vous avez indirectement donné la réponse dans votre question. Qu'est-ce qu'espère un mafieux pour ses enfants ? Qu'il soit au moins aussi riche que lui, mais dans la légalité. Donc, en effet, ça c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est qu'on peut aimer ou pas du tout le régime de M. Poutine. Ça ne veut pas dire qu'il ait éliminé les mafias. Mais avec Poutine, c'est plus dur la vie de mafieux qu'avec Yeltsin. Tous les mafieux vous le diront. Voilà. Voilà, merci.